5 ans qu'on se la pète.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 23 décembre 2006, vous êtes sur Radio Éphémère et que va-t-on vous fourrer aujourd'hui dans les oreilles ?
Attends, j'ai pas mes notes.
C'est bien parti, allez Thomas.
Ouais, maintenant.
Le supplément week-end avec l'actu, BD, ciné, TV et cadeau.
Suivi de...
Ça c'est du sport à 13h, les résultats en direct des stades, des sapins de Noël et des coups de boule.
Et ensuite...
À 15h du mix avec Zarma Farai, c'est du reggae. Il neige à Kingston, 17h Big Bang, 18h Vie d'Ordure, 19h Happy Hour, 20h Last Hétéro Experience, 21h30 9 Love. Et si vous avez oublié vos amis, votre famille ou votre du ciné, les magasins sont exceptionnellement ouverts demain. Ah ben, vous écoutez FMR sur 89,1 MHz, nous sommes en direct de midi à 5h du matin et on continue sur www.radio-fmr.net.
FMR. FMR, la French Independent Radio Libre since 1981.
Bonjour Thomas.
Salut Xavier, il y a Fred Raboy qui est revenu.
Ah oui, mais t'étais pas là la semaine dernière.
Ah d'accord.
Déjà. Voilà, c'est parce qu'on avait passé la période des 25 ans. Et ça va, t'es bien calé ?
Ouais, je suis bien calé, micro bleu, tout roule.
Ouais, ouais, t'as même envoyé ta liste de cadeaux de mariage par mail. Ah non, c'était cadeau de Noël.
Oui.
Ah, t'écris encore au Père Noël ? Comme tu
oui.
connais pas son adresse, tu l'envoies à tes copains.
Oui, oui, par mail même, parce qu'on est moderne.
D'accord. Je sais pas s'il a une solution, ASP et tout le reste. Enfin, c'est le supplément week-end. Émission numéro 96 déjà. Oula.
Oula.
Marianne Faithfull, Hunt Sly and the Ruby, Lola Air Forever.
How do you dare talk of love? If you've never known Lola Rasta Quera, she thought she was a he thought he was a she, but neither of them knew really. Crossing her legs round a fireman's pole, a shabby cat house, the happy few. Stripper on a string, foot in the queue. You had to mix wages for the ultimate view. In the sea, and when all's been done and nothing's been said, you leave the joint and roll to sleep. You run your fingers through her hair, between you and me. Her lips don't give a damn. She'll go down on you, still breathing air. The sun start to rise, so do you, if you can. Yeah.
Une reprise de The Gainsbourg, extrait de la compilation Monsieur Serge Revisited. Et Sly and Robbie, je crois que c'était eux qui avaient fait l'accompagnement musical justement sur l'album reggae de Gainsbourg. C'est du sport qui nous écoute en arrivant, qui va arriver avec une grosse pelle par derrière. Bah ! Aïe ! Oui. Ou la règle en fer s'il est soft. Enfin bon, tout à l'heure on va se faire un petit plaisir en antenne, donc vous étonnez pas si vous entendez du papier se froisser. Et heureusement on est là encore pour aussi vous dire, oh, vous voulez un disque, vous voulez pardon un, faire un cadeau, un bouquin ou un DVD, ou aller au cinéma, on a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser. Écoutez bien, c'est le moment de faire, je veux dire, les achats de dernière minute. Et on va commencer par une bonne nouvelle justement pour l'immeuble d'en face qui vient d'être déclaré aux États-Unis meilleur manga de l'année 2006. Alors il faut savoir que l'immeuble d'en face, c'est une manga, mais c'est la première, le premier album d'une dessinatrice lilloise, c'est une française qui s'appelle Vanida, qu'on a reçue d'ailleurs dans cette émission. Toute gentille, toute très très adorable, et dont le deuxième tome va arriver le 2 février en librairie. On l'aura vu à Angoulême puisqu'il sortira à ce moment-là. Donc franchement, chapeau, parce que aller aux États-Unis et arriver à choper la place des Japonais dans un prix qui leur est réservé, beaucoup là, hein, parce que c'est les libraires professionnels qui ont remis ce prix-là.
Non, c'est bien. Cocorico.
Voilà, oui, tout à fait, puisque en plus c'est quelque chose qui ressemble pas vraiment finalement à la manga. C'est plutôt, enfin dans l'histoire, c'est pas franchement quelque chose qu'ils connaissent aux États-Unis dans l'organisation et tout ça. Et franchement, ça fait plaisir quand même que la bande dessinée française marche bien. Encore une égérie de la nouvelle manga qui démarre bien. Petit clin d'œil à Frédéric Boilet. Et
d'ailleurs Vanida, quand on parlait de Frédéric Boilet qui avait initié le recueil Japon et français, là il y a un recueil français
et Corée du Sud.
Corée du Sud, ouais, et là sorti. Le Corée du Sud, il y a Vanida qui participe justement.
Je ne l'ai pas encore lu.
Parce qu'elle est d'origine coréenne.
Ouais. Oui. Voilà. On entame les sorties bande dessinée dans le supplément week-end. Commencer avec avec un bouquin,
un pavé,
le terme est faible. Voilà, c'est la nouvelle édition, je le montre à la caméra. C'est à une époque je l'appelais le gros jaune, c'était le truc qui est resté sur la digestion et tout ça, mais c'est un usuel de la bande dessinée, c'est une référence absolue, pas vraiment pour les chiffres mais plutôt pour la liste qu'il y a dedans. Il s'agit de Trésor de la bande dessinée qui vient de sortir aux éditions de l'Amateur. C'est l'édition 2007-2008 de la compilation de Michel Béra, Michel Denis, Philippe Mello. Si on prend les initiales des trois auteurs, ça donne le
BDM.
Voilà, donc le BDM nouveau vient d'arriver. C'est quelque chose, c'est une référence aussi bien pour les libraires d'occasion que à Drouot quand ils font de la vente de bande dessinée. Mais c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour l'amateur de bande dessinée quand il cherche un bouquin. Faut plutôt être professionnel en général. C'est dans cette occasion-là qu'on l'a. Le Trésor de la bande dessinée est désormais Argus officiel de la BD. Ils peuvent le mettre maintenant en une. Moi, je trouve que c'est bien pour eux. Bravo à eux. Et pour cette 16e édition, eh bien, c'est un dessin de Philippe Druyer en couverture. Ça y va sec. Tiens, encore un ancien de la radio. Un répertoire professionnel à l'intérieur qui a été refondu avec la collaboration de Gilles Ratier, qui est le secrétaire de l'association des critiques de bande dessinée et qui fait un excellent boulot de ce côté-là. Enfin, Thomas, t'as vu à peu près ce qu'il fait chaque année. C'est un pavé immense avec toutes les adresses et tout. Et...
Oui, avec un gros texte sur l'actualité de la bande dessinée, enfin sur ce qui s'est passé
dans l'année. Voilà, ouais. Il fait un bilan comptable de la bande dessinée, c'est-à-dire l'ensemble des sorties et tout le reste. Enfin voilà, c'est donc qui participe au BDM, qui s'ouvre un peu, qui est vraiment une référence professionnelle, il faut le dire. Donc moi je vous ai passé les anciennes éditions, puis maintenant je m'en fiche un peu, même si en fait suivant les années il y a à chaque fois une il y a un dossier spécial qui est consacré, qu'on ne retrouve pas dans les pages suivantes. Mais bon, ça à la limite on s'en fiche un peu. Il y a 5400 nouvelles entrées dans la catégorie album sur 2 ans. 5400, voilà. La grosse baffe.
Ouais, alors en fait, c'est un bouquin pour ceux qui aiment les listes.
Hein. Ouais, oui, si vous êtes fanat des listes, il n'y a aucun souci. Le BDM n'a jamais eu prétention d'imposer les cotes, et heureusement. Mais c'est un très bon ouvrage qui est instructif, puisque dedans, on retrouve tous les bouquins, tous n'ont pas une cote, mais au moins, c'est vous vous dites, attends, j'ai entendu parler d'une revue technique, etc. Si vous cherchez des informations sur tel auteur, là-dedans, vous irez assez vite. Bon, maintenant, on va beaucoup plus vite avec Internet, mais je veux dire, ça reste quand même quelque chose d'utile d'avoir sous la main. Primo, parce qu'on n'a pas forcément un PC sous la main. Hein. Justement, quand on va dans les vide-greniers, quand on fait les puces, ou quand on va à Ramonville-Saint-Anne, il y a la bourse aux livres. Et donc, eh ben, c'est ainsi que là-dedans, l'édition actuelle que j'ai entre mes mains, le Tintin au pays des Soviets, le premier Tintin qui soit sorti, la première édition, 10 000 euros. Attention, ça monte à 18 000 euros si ça fait partie des 500 premiers exemplaires qui ont été signés Tintin et Milou. Tintin, c'était Hergé qui signait, et Milou, c'était sa première femme, Germaine. D'où la place de la femme dans la bande dessinée franco-belge. C'était une mauvaise blague. Qui ne vient pas de moi, d'ailleurs. Vous multipliez par 5 si c'est dans un état neuf. Et alors, le Gaston... Le tout premier Gaston, qui n'avait même pas numéro, il s'appelait juste Gaston, c'était un Gaston allongé, dans un format quart de A4. Les libraires l'avaient reçu à l'époque, ils se demandaient ce que c'était à cause de son format, puisque ça a été imprimé sur des chutes d'imprimerie, et certains l'ont donné. Alors si vous l'avez, il vaut 2000 euros, et vous multipliez par 4 s'il est dans un état neuf. Après, il y a des bouquins, je sais pas, si on cherche les Chevaliers du Zodiac, 1,5 euros. Hein, bon,
ça... Non, mais ça m'atteint pas. Hein.
Là, par exemple, j'ai ouvert à Spider-Man, tu vois.
comme par hasard.
Et juste après, il y a le Spirit. Et c'est assez marrant parce que, bon, comme les éditions de Spider-Man sont plus récentes que celles du Spirit, Spirit, ça vaut plus cher que Spider-Man, tu vois.
Ça dépend aussi du tirage et de la qualité.
Non, mais regarde globalement, hein, regarde le plus cher en Spider-Man, quoi, il est à 35 euros, alors que du Spirit, t'en as à 40, 50 euros tranquille, quoi.
Oui, mais les Spirit, ils sont tous sortis en relié. Alors que les Spider-Man, il y en a eu relativement peu en relié. Et je sais pas quelle édition arrive en premier, mais c'est probablement celle qui était faite par Aredit ou un truc comme ça. Donc c'est vous dire tout ça que donc il est sorti l'immense pavé, le trésor de la bande dessinée, édition 2007-2008 aux éditions L'Amateur, toujours Michel Béra, Michel Denis et Philippe Mello, donc le BDM qui arrive là. Attention, je compte, j'ai pas fini de compter, je m'en étais arrêté à 1152 1154 1158, et ben on arrive à 1180 pages. Un gros pavé.
Eh bien, Alda, ça te fait mal au dos pour transporter tout ça pour la radio, là.
Ouais, à Angoulême, on va souffrir, hein, parce que entre ça, le dictionnaire de la bande dessinée et les catalogues professionnels.
Pourquoi on?
Ah mince, tu viens pas? Oh,
non, c'est toi qui les prendras.
D'accord. Evil Earth, c'est une nouvelle manga de Tomo Taketomi qui vient de sortir dans la collection Big Kana, qui est une collection plutôt adulte, plutôt pas pour gamins, mais plutôt pour lycéens, pour ados adultes, chez Kana Dargo. Et c'est l'histoire d'Umeo. Umeo, c'est un jeune garçon qui rentre en première année de collège, mais dès le premier jour, il est impliqué dans une bagarre. Il a une réputation d'enfant difficile, turbulent, bagarreur, violent. Étonnamment, la principale prend sa défense, car Umeo vit seul avec sa sœur Machiko. Après tout, peut-être que ce garçon n'a pas un mauvais fond, il est vrai qu'il n'avait pas provoqué la bagarre. Fallait pas lui parler de sa mère. Une réception un peu froide de ses camarades, qui sont déjà au courant de sa réputation, ça va pas franchement aider à son intégration au collège. Et Umeo est très intéressé pour faire partie du club d'Aïkido. Bon, on rappelle qu'au Japon, il est obligatoire dans la plupart des collèges et des lycées de faire partie d'un club. C'est souvent un club sportif, mais ça peut être un club de lecture, ça peut être un club d'astronomie et autres. Oui, mais voilà, Umeo est trop énervé, trop turbulent, trop bagarreur pour arriver à s'y concentrer. Alors que son professeur, Daniel, eh oui, un étranger, un gaijin, lui explique patiemment qu'il n'y a pas de réel combat dans l'aïkido puisqu'il s'agit d'un art martial de défense basé sur l'esquive, la maîtrise de soi et comment recevoir les et éviter les coups. Et là, je dois bien avouer que j'ai eu du mal. J'ai commencé à le lire. C'est encore un manga de sport sponsorisé par une fédération sportive genre Jeanne et Serge ou encore Olive et Tom et avec le soupçon de mauvais garçon à la Slam Dunk. Impression renforcée par les dessins qui montrent plutôt bien les mouvements sans que cela tourne à la leçon, mais quand même, moi et le sport. Alors je me suis mis à le lire un peu plus vite, mais je sentais au fur et à mesure que l'histoire basculait. Et c'est à la fin du premier tome que je me suis pris une claque. On apprend qu'Umeo a deux frères aînés, que ces deux-là, comme leur père, sont très violents, qui tabassaient sa mère et sa sœur, et que lui, le Benjamin, le petit Umeo, qui avait 6 ans, eh ben, il savait que faire. Jusqu'au jour où le cadet a été poignardé par leur mère, qui l'allait tuer dans une crise de violence. D'où le fait que la mère est en prison, qu'Umeo et Machiko vivent seuls, et un passé qu'ils croyaient fini jusqu'au jour où l'aîné redébarque dans la vie d'Umeo en tabassant leur sœur Machiko, histoire de la racketter. On comprend que la vie d'Umeo est très loin d'être facile. Evil Earth, ils auraient pu mettre un titre français pour le coup, Les Diaboliques. Tome 1, Tomo Taketomi, c'est dans la collection Big Kana, édité par Kana. Et il faut pas se laisser faire sur l'impression un peu didactique, la suite est quand même assez étonnante. Thomas est plongé dedans, c'est... Week-end sur Radio FMR, midi 12, 17 minutes et 18 secondes. Peut-être une idée cadeau qui pourrait plaire si vous avez un enfant, un petit cousin, un petit frère qui s'intéresse à la préhistoire, qui adore les grands monstres. On va parler de manga, mais on ne va pas parler de Godzilla et tous ses frères. Non, il s'agit d'un bouquin de Jiro Taniguchi et de Ryuichi Kaneko, qui n'est pas un dessinateur de manga ou un scénariste de manga, c'est plutôt un spécialiste de la préhistoire. Ça s'appelle l'Encyclopédie des animaux de la préhistoire. C'est dans la collection qui est plutôt adulte, Made in, chez Kana. Moi, je suis pas d'accord avec la dénomination adulte. Je trouve qu'au contraire, ce serait un très joli cadeau. On apprend un peu ce que c'est qu'être un tigre à dents de sabre. Vous savez, c'est être une terreur des steppes et tout, avec d'immenses canines qui descendent très bas. Vous êtes obligé d'ouvrir très grand la bouche pour manger, mais c'est pas très pratique finalement. Ces deux grands trucs qui me font toute ma fierté. Ou encore l'ancêtre du cheval qui, d'un coup, a décidé « Allez, je me mets à courir comme ça pour échapper aux fauves ». Et puis il y a aussi cette étrange manie de certains mammifères de s'endormir quand ils commencent, quand la nourriture commence à se faire rare, quand il commence à faire froid. C'est incongru. Mais voilà. On se l'avait déjà dit quand j'avais chroniqué K ou Seton, le naturiste qui voyage. Une fois de plus, Jiro Taniguchi montre son parfait talent d'illustrateur pour montrer les paysages, la flore et la faune. Et quelle faune, puisqu'il arrive à donner un pelage, une musculature, un regard pour des animaux qu'aujourd'hui sont éteints et dont il ne reste que des empreintes, des os, parfois des coquilles, plus rarement des poils ou des écailles. Alors on se dit que le nom du livre est très prétentieux, l'Encyclopédie des animaux de la préhistoire, mais Taniguchi s'est très bien entouré avec un spécialiste de cette époque. Le lecteur, aidé de la double page qui clôt chaque histoire, ben, il se rend compte que l'étude de la faune, la préhistoire, évolue continuellement en fonction des découvertes, et on apprend un peu mieux sur comment les mammifères ont progressivement pris la place des dinosaures, si les dinosaures ne sont pas éteints directement, sur comment le darwinisme fait son œuvre, à chaque fois par mutation génétique, mais aussi en fonction du régime alimentaire ou des conditions climatiques. Si pour vous l'évolution c'est une théorie qui est tout à fait valable et que le créationnisme ben, c'est un pur fantasme des intégristes chrétiens, ou finalement l'évolution, on a la preuve tous les jours. Eh ben, ça va. Un, on peut s'entendre, et deux, ce livre vous plaira. Il y a justement des inexactitudes, voire des partis pris de l'auteur, mais parce que justement, les recherches continuent sur le sujet, et pour le grand public, ben, tous ces animaux aujourd'hui disparus, dont on ne connaît que les squelettes exposés dans les musées, reprennent vie. Et c'est ce que l'on appelle la vulgarisation scientifique. C'est très bien fait, c'est un très bon ouvrage didactique, et c'est à offrir au petit Calvin s'il est sage et s'il arrête de se prendre pour un dinosaure avec son tigre en peluche. Encyclopédie des animaux de la préhistoire, ça vient de sortir dans la collection Made in Shikana, c'est de Jiro Taniguchi et c'est aidé de Ryuichi Kaneko. Thomas, peut-être en une minute. Tu l'as un peu vu?
Oui, j'ai un peu zioté. En fait, faut aimer un peu les animaux. Hein. Moi, j'y connais rien. Franchement, je le dis. Après, c'est voilà, c'est un truc animalier. C'est pour mieux apprendre.
Enfin, les animaux, c'est animalier, c'est plus anthropomorphique parce que on leur donne des pensées et tout ça.
Oui, mais... voilà. Bon, moi, c'est pas trop le truc que j'aime bien, mais bon, moi, j'aime bien Taniguchi en général. Même Seton, j'ai beaucoup aimé aussi. Juste le reproche que je peux lui faire, c'est qu'il fait toujours la même chose, c'est que les personnages ont toujours la même tête. On discutait en rentrant tout à l'heure. Il fait des trucs plutôt assez gris et à cause des trames, mais pas assez contrasté à mon goût. C'est tout le temps jamais blanc ou noir, mais c'est aussi la cible vers la à laquelle il s'adresse, puisque c'est le Seinen, je crois, ce sont les salarymans. Voilà, ces histoires, c'est jamais un méchant gentil, c'est toujours en dedans, des mecs qui ouvrent leur cœur et tout. C'est assez intéressant sur le long terme, mais bon, je comprends tout à fait qu'on soit un peu réfractaire à ce genre de graphisme.
Quoi mettre comme fond parce que j'avais pas ce qu'il fallait, puisque là on parle du collectif autour de Serge Gainsbourg, les chansons de Gainsbourg, le troisième tome clôt cette trilogie et est axé autour des filles de fortune. Ça vient de sortir chez Soleil sous la direction de Christian Arleston,
qui est le Christophe.
Ça m'apprendra en même temps de faire des trucs, et en plus Christophe, si jamais il m'écoute, il va me dire bon, ça va sur FMR, ça a pas bougé depuis que j'y suis allé, c'est toujours aussi à peu près esque. C'est désolé, ça arrive. Enfin bon, tout ça pour dire donc que là aussi c'est un très très beau bouquin qui mériterait le coup d'être offert, mais pas à n'importe qui. Il s'agit d'un hommage graphique à Serge Gainsbourg, le chanteur, le parolier, le mélodiste, mais aussi le romancier et le grand lecteur de bande dessinée. Après le premier tome, Mélodie Nelson, et le deuxième autour de l'homme à la tête de chou, c'est l'homme qui admirait les femmes et que les femmes adoraient, qui est mis ici en encre et en peinture. Sous la direction de Christophe, donc, qui adore faire dessiner des filles de papier, une belle brochette de dessinateurs donne vie aux chansons de l'éternel French Lover. Dany pour Couleur Café, Christophe Hallel pour 69 années érotiques, Frédéric Penet pour La Javanaise, Pierre-Yves Gabrion, les Dessous Chic, et le tout relié dans une superbe couverture de Moebius. Du très beau monde pour des chansons qui furent interprétées par les plus belles filles, comme la flamboyante Brigitte Bardot, la très fragile Jane Birkin, Isabelle Adjani au petit pull marine, l'innocente France Gall, et bien sûr sa propre fille Charlotte, dans un Lemon Incest qui à l'époque avait fait scandale. Bref, le cadeau adulte par excellence, alliant musique...
Et Vanessa.
Oui, exact.
Et Vanessa, elle est où?
Tu me permets que je termine d'abord. Un mariage plutôt heureux depuis une décennie, vu le nombre d'expériences de ce genre, est plutôt réussi. Cette trilogie autour de Serge Gainsbourg est un bon choix. Mais attention à ce troisième tome, contenu explicite pour les chansons souvent torrides. Les chansons de Gainsbourg, tome 3 sur 3, Fille de Fortune vient de sortir chez Soleil.
Je suis en train de regarder le Sex and Son, il est pas mal. Hein.
Ouais, il y a vraiment des trucs qui sont bien. On a les textes intégrales. Des fois, on a juste un dessin sur une chanson. D'autres fois, on a quelque chose d'un peu plus complet. Ça vaut le coup. Moi, franchement, pour quelqu'un qui aime bien, qui a tout Gainsbourg, ça, c'est un truc à lui offrir. Sincèrement, Gainsbourg était un très grand fan de bande dessinée. Je pense qu'il aurait vraiment adoré quoi ce livre. Il était fan de Dany et de plein de dessinateurs. Je suis sûr que justement les bouquins que scénarise Christophe Arleston, lui, il en serait absolument fan.
Ouais, bah, de toute façon, ça marche également en sens inverse. Je pense que bon,
il y a pas mal de dessinateurs.
Tous les dessinateurs qui sont investis là-dedans, bah, c'est également pour rendre hommage au génie de Gainsbourg.
Oui, à fond. Et certains sont plutôt étonnants. Il y a des dessins qui sont ils sont vraiment excellents. Par contre, c'est explicite, hein. Voilà, donc c'est pas trop pour gamins. Si, il y a des beaux nus. Et les scènes de cul aussi.
Bah oui, c'est Gainsbourg aussi. Hein. Bah, bon.
Et si vous cherchez un disque, donc ce que l'on a mis en générique tout à l'heure, je redonne une référence. Monsieur Gainsbourg revisité, où il est enlacé avec Jane Birkin dans des habits de miroir. Et
on dit du lamé.
Du lamé, exact. Et donc dedans, alors c'était la question que je posais, c'était la reprise de Marianne Faithfull de Lola Rastaquare. Sly and Robbie, c'était bien eux qui avaient fait la bande son, je crois, sur son album reggae.
Ouais,
je crois qu'il l'avait accompagné.
Les deux albums, aux armes, etc. Bon baiser des étoiles.
Je ne sais plus. Ouais.
Ouais, avec les étoiles. Quoi.
Ouais, c'était bien eux. Ouais. Et dedans, il y a Brian Molko, il y a Michael Stirp, il y a Tricky, il y a Placebo,
The Kills. Il y a Rita Marley, hein, tu sais, les Ice Tree qui faisaient les chœurs, quoi. Les chœurs.
Non, là, je te parle de ceux qui sont sur un compil.
Non, mais à l'époque, hein, des albums de Serge.
Du beau Serge.
Ils étaient également de la tournée que Gainsbourg a donnée, de l'incident fameux, hein, la fameuse Marseillaise à Strasbourg où
il y a eu
les légionnaires qui ont voulu interdire le concert et tout ça, quoi, avec justement les deux, quoi, qui faisaient partie de son accompagnement, quoi, à l'époque.
On va clore les sorties bande dessinée. C'est pas vraiment une bande dessinée, encore une fois, c'est plus un. Enfin, c'est pas un usuel, hein, c'est un énorme recueil, un bouquin assez épais là qui doit faire facile dans les 200 pages, qui est écrit par Christelle Pissassi-Iverno, L'Oisel dans l'ombre de Peter Pan, c'est dans la collection Entretien chez Vent d'Ouest, et c'est un grand ouvrage, un bouquin épais d'entretien, de documents, de crayonnés, c'est un gros pavé, mais exclusivement pour le fan de la série Peter Pan. Revue et corrigée par le créateur de La Quête de l'Oiseau du Temps. Je rappelle quand même que le Peter Pan qu'il a illustré, c'est une vision noire, brutale du conte, rendu gentil et gnangnan par Walt Disney, puisque quand même, Peter Pan,
la version originale du bouquin, c'est pas ça, quoi. C'est...
Ouais, mais là, quand même, c'est lui qui est Jacques l'Éventreur, quand même, dans l'histoire, hein, tel que l'a illustré Loisel. Ça n'a rien à voir avec Walt Disney. D'ailleurs, à propos des studios Disney, on apprend que Loisel a bossé sur Hercule et de l'Atlantide, sur deux longs métrages de Disney, mais qui n'a pas été crédité pour son travail. Mais il a un témoignage qui est assez intéressant sur la production du dessin animé grand écran par Hollywood, avec des équipes là-bas qui sont très au courant de la bande dessinée franco-belge. On a des lecteurs réguliers d'ailleurs sur le blog du côté de Los Angeles. Ou encore comment Loisel s'est offert une marotte, une adaptation avec acteur pour une pub sur grand écran d'un des albums justement de Peter Pan. Ou encore, ouais, tout plein de choses. Mais c'est un livre d'entretien très complet, très costaud, très lourd, et il sera totalement hermétique pour qui n'a pas lu la série. À moins que les illustrations des autres dessinateurs vous plaisent. Ça tombe bien, il y aura une vente aux enchères courant du mois prochain à Paris, en début d'année, et c'est de l'argent qui sera reversé, tout comme les droits de Peter Pan, le roman, sont reversés à un hôpital pour enfants de Londres. Et ben lui, il a décidé de reverser ça à des hôpitaux pour enfants en France, et moi je trouve que c'est sympa. Donc c'est tous les dessins originaux que l'on a qui sont reproduits dans l'album, enfin c'est featuring de dessinateurs qui seront mis en vente, sera à Paris. Je n'ai pas les détails effectivement sous les yeux, donc il suffit, on vous tiendra au courant en début d'année. Loisel dans l'ombre de Peter Pan, Christelle Pissassi et Iverno, excusez-moi si j'écorche son nom, c'est dans la collection Entretien chez Vent d'Ouest. J'ai pas l'habitude, c'est un nom français. écoutez Radio Éphémère, midi 29 minutes et 43 secondes sur l'horloge atomique de la radio, puisqu'on a une vraie horloge atomique maintenant, radio guidée. Ça fait tic-tac, mais ça explose pas. Oui, il y a Thomas qui est complètement halluciné devant les crayonnés. Je t'avais dit qu'il venait de... Oui, oui, je sais, la régie finale, je sais, c'est l'heure des pubs. Alors voilà, nous on se retrouve après les pubs, il y aura un grand monsieur en houppelande et en barbe blanche qui sera passé.
Alors mon but dans la vie, c'en est 15 000 par jour.
15 000 quoi ?
Genre je fais des concours toute la journée. Quand je suis en mobylette, c'est tant que j'ai pas doublé le taxi, j'ai pas gagné. C'est mon but. Dès que j'ai doublé, je suis content.
FMR, la radio qui a des objectifs.
Voilà, c'était parti d'un délire. Je me suis dit bon, allez, ça, je sais que ça va plaire. Donc je vais le dire, on a vraiment acheté des cadeaux. Hein, c'est pas du dossier de presse ou quoi que
non,
ce soit.
Non, pas moi.
tu t'en repentiras. Allez, qui c'est qui ouvre le bal en ouvrant?
Alors moi, c'est un livre, je sens.
Ah, je crois que là tu vas être vert parce qu'il y en a deux sur Toulouse.
C'est The Best Illustration of Comic Fan Magazine Collection.
Ah ouais. Oui, je savais que c'était pas sur ta liste, mais je crois que tu vas craquer.
Marvel Deluxe, Jack Kirby, c'est un spécial Jack Kirby. Ah
il s'agit d'un artbook chinois, Thomas. Et tu reconnais qui c'est qui a fait le dessin
en
couverture?
Oui, c'est Benjamin. Ah, attends, je vais ouvrir le plastique là. Oui, je me suis dit, tiens, on est en plein dans les chroniques, on parle de ce que nous on chronique, donc un recueil de films de genre japonais.
Jam Films, voilà, donc... Ah oui. Donc, je tiens à signaler quand même qu'il n'y a que deux exemplaires qui sont en vente à Toulouse, t'en as un des deux, et ça a été amené par le gars des éditions Chiaopan, et ils sont en dépôt vente dans une BD librairie toulousaine, vous chercherez. Ouais, putain, ils sont beaux les posters. Hein. Ah, je savais que j'allais faire un heureux. Thomas, tu en parleras un peu après. Du sport. Jack Kirby, ça vient de sortir dans la collection. C'est une nouvelle collection qui s'appelle Marvel Deluxe. C'est les premières aventures des personnages créés par Jack Kirby. Donc il y a le Spectre,
Captain America,
le Surfeur d'Argent. Je crois même qu'il y a un chapitre de Gods. Et voilà, c'est les aventures mythiques. Et putain.
La torche humaine avec Spider-Man.
Ah ouais. Ouais. Et là, Thomas m'a donc offert Jam Films. C'est des histoires, 7 réalisateurs japonais qui ont fait des films à sketch. Kitamura, Tsutsumi.
Moi, je connais que Kitamura. Kitamura, c'est celui qui a fait Versus et Godzilla Final Wars. Et les autres, après, faut voir. Je pense que ça doit être assez barré.
Ça doit être assez dingue, ouais. Je crois que ça va être le truc à se regarder le soir, mais parce que déjà, rien que les photos.
Déjà, en passant devant, j'ai cru que c'était.
Je savais pas que t'étais comme ça, Xavier. Je savais pas du tout. Là tu m'étonnes, là, franchement.
Ah non.
Je ne connaissais pas cette facette de ta personne. Assez intime, je l'avoue.
Allez, c'est...
Et toi, du sport?
Alors là, carrément, un coffret Buster Keaton.
Ah oui!
Celui que mes fils n'aiment pas pour l'instant, qui trouve que c'est chiant,
de bas, fait au lit.
Ouais,
comme
ouais,
ça,
ouais.
T'as le lecteur DVD pour toi et t'as du cinéma.
Ouais, c'est dans la série des sorties de films, tous les catalogues qui sont en crédit illimité, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter les droits, c'est bon, vous pouvez faire des diffusions et tout. Et là, ben ouais, il y en a 4, il y a le mécano le plus connu, c'est le mécano de la générale et Steamboat Billy Junior, hein, cadet d'eau douce. Et Sportif par amour, il est pas mal, il est rigolo. Le professeur, je m'en rappelle pas bien. Alors bon, je pourrais pas vous en parler. Mais en tout cas, Buster Keaton, hein, rien à dire de toute façon.
Quoi. Très, merci, très, très, très beau coffret en tout cas. Ouais, merci Thomas.
Ben, merci Xavier.
Et puis du sport. Merci d'être venu. Toi, tu vas prendre la suite tout à l'heure.
Bon, je ramènerai les cadeaux l'année prochaine.
Il y a Thomas qui est en train de s'extasier.
Oui, alors là, Sabrina, si tu nous écoutes, tout à l'heure, je vais revenir avec un putain d'artbook avec du fait sous Painter pour la plupart. C'est des Chinois, donc on s'aperçoit que Benjamin n'est pas tout seul.
heureusement, ça augure.
Ça tue.
C'est. Donc voilà, c'est un magazine graphique qui existe en Chine et c'est clair qu'il y a pas mal d'influences manga, mais
oh là là,
ah, c'est
ouais.
Énorme.
Ah ouais, c'est ouais. Merci Xavier.
Ah, de rien. De rien, mon cher ami, parce que toi tu es allé pour tout le monde.
Ah oui.
Eh oui, t'as osé.
J'ai osé. On va parler de la chronique suivante alors.
La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono sur onde par Thomas.
Et aujourd'hui, on va parler de Arthur et les Minimoys de Luc Besson. Alors, il a tourné avec Mia Farrow et Freddy Highmore, le petit acteur de Charlie la chocolaterie. Et puis évidemment, tout le monde a parlé des voix VF et VO, donc on va pas en parler ici. Farmer, Madonna, patati patata. Alors, ça raconte l'histoire du jeune Arthur qui est élevé par sa grand-mère à la campagne. Et ses parents sont un peu cons, on va dire. Ils sont jamais là pour lui. Son grand-père a disparu dans des circonstances assez mystérieuses, puisque c'est un aventurier. Sur le point d'être expulsé de sa maison, puisque le promoteur qui veut mettre la main sur la demeure de sa grand-mère, le garçon s'est mis en tête de retrouver un trésor soi-disant caché par son grand-père au cœur même du jardin. Et en fait, pour cela, il va devoir accéder à la cité mystérieuse des Minimoys. Et donc voilà. Alors, bon, l'histoire, c'est pour les gamins, donc c'est pour les enfants. On pouvait craindre que ce soit un peu gnangnan, le truc éculé. De toute façon, à partir du moment où il y a un film d'animation en 3D qui sort pour les enfants à Noël, tu te dis, bon, il n'y a pas besoin que ce soit si bien que ça. Voilà, il suffit qu'il y ait quelques scènes d'aventure, de poursuite, etc.
Sketch qui se répète avec des rennes qui rôtent, et puis voilà, ça suffit.
Exactement, ce que fait DreamWorks. Mais alors là, par contre, non, il ne s'agit pas du tout de ça. C'est un niveau. On atteint un niveau quand même assez haut. Les parties filmées en prise de vue réelle, ça a fait vachement penser à du Tim Burton, puisque le jeu des acteurs, c'est outré à mort. Ils sont lookés de façon très particulière. Bon, c'est le Tim Burton de Big Fish, tout au soleil, et pas du tout gothique, mais tu te dis, ah, c'est quoi ces acteurs? Et justement, ça contrebalance vachement avec l'ambiance des Minimoys, où les créatures en 3D sont beaucoup plus un comportement beaucoup plus sensé et adulte que les adultes qui sont incarnés par des vrais acteurs. Et c'est de ce côté-là que la grande force du film réside, c'est justement que le caractère design est génial. Alors, t'as des personnages, t'as le personnage qui va, je pense qu'il va bien s'arracher au niveau joué, c'est Betamèche, c'est le petit Minimoys qui, voilà, c'est le petit Minimoys tout petit qui accompagne Arthur et la princesse. Donc voilà, il a une bonne bouille, les cheveux en espèce de flamme. Il joue tout rond et tout. T'as la princesse Selenia. Bon, on sent vraiment que les animateurs sont vraiment fait plaisir parce qu'elle est gaulée, mais comme voilà. Comme
ouais, et surtout, ils ont tous fait de la lèche pour le réalisateur.
Une
rousse.
Oui, une rousse. Et puis surtout qu'il y a des plans de son cul, mais il y en a partout, quoi. Dans le film, excuse-moi, je suis un peu vulgaire là. Je parle d'un film pour les enfants, mais vraiment, t'as des plans vachement suggestifs.
C'est un film qui est fait par des Français, donc oui. Ils peuvent se le permettre.
Oui, donc elle est en pantalon en cuir qui est super moulant, bon, enfin bref. Après, t'as le caractère design de créatures beaucoup plus loufoques et qui fonctionnent très 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 bien aussi. Il y a deux boules en poils ou peluche qui s'appellent Roméo et Juliette. Ils s'en servent comme bombe en fait, puisqu'il y a dès qu'elles sont séparées, elles veulent juste aller à tout berzingue se rejoindre pour faire des bisous. Donc c'est deux boules qu'ils mettent à deux endroits différents, et puis comme ça, quand il y a quelqu'un qui veut se faire exploser au début, ben hop, mieux, et hop là, il lâche les deux boules. Il y a le chef aussi, le roi de la cité des Minimoys, c'est un mec avec des énormes bras, tout. Pour lui, ça rappelle un peu les créatures de Monstres et Compagnie, le gros bleu là. Mm. Et Sullivan et donc en fait à un moment donné du film tu aperçois que le roi c'est juste la une toute, toute petite créature qui est au sommet et en fait le reste c'est une autre créature qui t'est une baraquée c'est et le roi en fait c'est juste un petit truc tout d'un au dessus qui descend on est pop. T'as plein de trouvailles comme ça qui sont très rigolotes quand ça se passe. On sent encore le gros défaut de Besson, c'est qu'il essaie de parler à la culture hip-hop, etc. Donc, t'as du Pulp Fiction dedans, t'as des références aussi à Pulp Fiction, pas au niveau musical seulement, t'as aussi au niveau chorégraphie, parce qu'il y a inévitablement une scène de danse où inévitablement la princesse. Voilà, c'est pas comme si ça avait été déjà fait, enfin bon, bref. Et il y a aussi, bon, il y a plein de références comme ça qui sont un peu la marque de fabrique de Besson, voilà, donc c'est un peu lourd. Mais on peut aussi remercier aussi Besson pour son goût pour le visuel, puisqu'on sait toute la patte de Besson quand il s'agit de faire des films normes, enfin en prise de vue réelle, son goût pour la symétrie, les plans super bien construits, les couleurs qui sont jamais gratuites, etc. Et là, c'est la même chose, c'est que on n'a pas les films à la DreamWorks où t'as du rouge, du vert, du bleu qui pète partout. Là, c'est vraiment une ambiance, même quand tu vois les images du film, c'est assez joli, même le site internet, tu vois vraiment qu'ils ont tester les couleurs, etc. Les constructions, les plans, c'est vraiment du vrai film en prise de vue réelle, puisque bon, on a des diagonales, on a de la symétrie au niveau vertical, etc. Bon, voilà, on sent vraiment que c'est un mec qui a fait beaucoup de films avant, qui a été réputé pour sa patte visuelle et qui recycle ça dans ce film d'animation. L'autre bémol que je me permettrais de dire, c'est que les scènes d'action sont vraiment trop vite expédiées. C'est qu'à un moment donné, on peut laisser poindre un souffle épique parce qu'il y a des scènes de baston. Et voilà, elles finissent aussi vite qu'elles ont commencé. Donc voilà, on aurait un peu voulu que ça se déroule un peu plus en longueur. Voilà, qu'il y ait un vrai souffle derrière, avec la belle musique de Eric Serra derrière qui fait bah, 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 bah. Bon, voilà, c'est pas ça qu'ils voulaient. C'est dommage. Bon, c'est quand même un bon film pour les enfants, même pour les adultes. Tu en prends plein les mirettes si tu t'intéresses un peu à l'image. Il y a vraiment du bon boulot qui a été fait, surtout qu'ils ont travaillé d'après des vraies maquettes grandeur nature pour tout modéliser, etc. Tu sens vraiment que c'est pas que tous les petits éléments de décor ont été visualisés avant, bien pensés, etc. C'est pas du tout gratuit. Donc vous pouvez y aller, Arthur et les Minimoys. Il y a des chances que ça soit pas une sortie technique.
Je crois pas.
Ils ont matraqué de partout. Voilà, donc Besson a dit que c'était son 10e et dernier film. Il a assez répété. Il a dit à plusieurs interviews que ben voilà, si les gamins adhèrent à l'univers du film, ça pourrait bien qu'ils pointent le bout de son nez d'une trilogie et qu'ils soient également aux manettes.
Bah ouais, tu m'étonnes. De toute façon, il faut aussi dire qu'il mise aussi beaucoup sur les produits dérivés, vu qu'on trouve Arthur et les Minimoys même dans ma boîte de vache qui rit, tu te rends compte? C'est incroyable.
Donc du sport, mange de la vache qui rit au petit déjeuner. Donc ça, c'est une info exclusive Radio FMR. Il y avait aussi le cinquième élément sur lequel il y avait une suite qui avait été il avait dit qu'il ferait une suite à cause du succès du film et tout, et puis finalement rien. Donc oui. Après tout, on ne sait pas, on ne sait jamais. Hein, mais par contre, il a dit qu'il arrêtait un peu, qu'il se concentrait un peu sur le côté producteur.
Oui, alors je reçois un texto de Sabrina qui me dit c'est M le Maudit, référence au cinéma. Donc non, M le Maudit, c'est le méchant dont je n'ai pas encore parlé. C'est le roi dont je parlais tout à l'heure. C'est quelqu'un d'autre. Il s'appelle pas M le Maudit, le méchant, c'est Maltazar.
Spoiler.
Et voilà, donc de toute façon le méchant il arrive assez vite. Hein, voilà, il s'appelle M le Maudit. Voilà, bon, c'est une grosse référence aussi à notre cinéma.
Et qui coûte pas cher.
Voilà, c'est ce qu'on peut reprocher aussi à Besson, c'est que les références sont un peu trop voyantes. Voilà, mais sinon ça reste quand même un très bon film. Et voilà, il y a même beaucoup, je parlerai pas de beaucoup, plusieurs scènes qui sont en prise de vue réelle où vraiment il y a aussi de l'originalité là-dedans. Voilà, c'est un bon film de Luc Besson, Arthur et les Minimoys, qui est un mélange entre prise de vue réelle et éléments 3D. Et voilà, c'est un
moi je me pose des questions. Moi je me pose des questions, c'est est-ce que j'ai des animateurs qui sont vraiment réactifs, c'est-à-dire si je leur propose un quiz show. Alors attention, le principe c'est on teste les animateurs.
Alors Xavier, on voit par transparence.
Tu vas avoir un peu de mal à me redire quand même,
oui,
derrière. Alors il y a un indice, il y a bon d'accord, OK. Comme ça, voilà.
Non, mais c'est bon.
Il y a un indice thème. Luc Besson va trop vite. Il y a 10 questions et attention, dans la 10e, l'indice est peut-être faux.
D'accord.
D'accord, vous êtes prêts?
J'ai rien compris non plus, mais plus vite
c'est Luc Besson.
Ok, c'est bon.
Mais c'est un jeu de rapidité.
Un jeu de rapidité.
Ouais, ouais. Vous êtes prêts là?
Oui, oui.
D'accord, ok. Eh ben on y va. Et c'est quand tu veux, Timo Mas. Allez, change de braquet. C'est un Marseillais qui roule trop vite.
Taxi.
Du sport. C'est des cums qui sautent très vite.
Les Bakazi.
Là-bas, ouais.
Un partout. C'est avec une chanteuse de J-pop qui parle très vite.
Wasabi.
2-1. C'est un pilote qui roule trop vite. Très vite.
Taxi 2.
Non, perdu, c'était Michel Vaillant. C'est deux pilotes qui volent très vite.
Les chevaliers du ciel.
Bon, ex-aequo, 3-2. C'est un coursier qui livre très vite.
Léon.
Non.
Un coursier qui livre très vite. Paperboy.
Non. Le transporteur, dommage.
Ah merde,
c'est
vrai, ouais.
C'est une flingueuse qui tire très vite.
Léon. Nikita.
Nikita. Ouais. C'est un flingueur qui shoot très vite.
Léon.
T'assistes un peu trop au dispens, je te le compte pas. C'est une bleuette qui s'est viandée très vite.
Une quoi?
Une bleuette.
Ah, le grand bleu?
Non.
Non, Angela.
Bravo. Ah. Et attention, la 10e, c'est très lent!
Ah, c'est très lent. Faux indice, c'est très lent. Bartholomew Minimoys? Non.
Le grand bleu.
Ah.
C'est une honte! Midi 46 sur la poubelle des radios, c'est le supplément week-end. Je suis déçu de mes animateurs. Avantage Thomas, mais du sport, il est coincé sur Léon, lui.
Léon, c'est la mer noire.
Je sais pas, j'aurais plutôt vu Nikita pour du sport. Bon. Je sais pas pourquoi, enfin bon.
T'aurais pu aussi dire ça vole très vite pour le dernier combat, puisque c'est à bord de planeur.
Ça va pas si vite que ça.
Non.
C'est vrai que j'ai essayé. Enfin, il y avait de la production Besson et de la réalisation Besson. Enfin, bon.
C'était bien.
Prévenu, la prochaine fois, il y en aura d'autres. Et vous le retrouverez sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net. Du sport pour la télévision.
Bon bah j'y vais. Avec une petite revue de presse, pas une revue de presse, c'est pour vous signaler que du côté de SoFoot, non, il n'y a pas le numéro de janvier qui est déjà sorti, c'est pas vrai, on est encore au niveau de décembre. Par contre, il y a un hors-série qui vient de sortir,
ah.
SoFoot spécial photo, ça coûte 6€, donc dans les trucs, dans les kiosques, j'ai pas encore acheté, mais bon, voilà, c'est sorti, c'est dans les kiosques. Et dans le numéro de décembre, je crois que c'est le numéro de décembre, hein, de Technicart, je suis pas au courant, quoi, tu vois. Non, le numéro de janvier de Technicart qui lui sort déjà en fin décembre, tu vois, c'est le nouveau. Avec qui en couverture?
Le petit Nicolas.
Exactement, et un super gros article donc sur les 45 ans du petit Nicolas. Il y a également dans la rubrique Culture Clash la question qui tue et que vous allez vérifier dans peu de temps. La bulle d'Angoulême va-t-elle exploser avec, comme d'habitude, la présentation Technicart, c'est-à-dire les bons endroits pour passer une bonne soirée quand vous êtes à Angoulême, les endroits, la partie du mois, les endroits, enfin, tout et comment ça va se passer. Enfin, bref, tout
surtout
ça, c'est dans
le Technicart. Surtout que cette année, les bulles sont excentrées par rapport à la cité,
au centre-ville.
Ouais, au centre-ville.
Ouais, ils en parlent justement dans l'article en disant que c'est peut-être l'année du dernier festival d'Angoulême.
Non,
je sais pas quoi.
Non, personnellement, j'y crois
pas. Ça peut clasher, on sait pas. Enfin, bon,
c'est une trop grosse industrie pour Angoulême. Ils seront prêts la mairie serait prête à remettre des sous dedans. C'est vrai que cette année, ça va être difficile, mais je crois pas.
Ouais,
honnêtement.
Ouais. Et comme d'habitude, alors fin d'année, début d'année pour Technicart, c'est bien entendu les classements habituels de l'année écoulée avec le top 10 en
le
musique.
Top 5.
Le top 10 en musique, il y a des trucs assez intéressants, mais enfin bon, c'est des spéciaux, hein, Technicart quand même, quoi. Avec Darkel en 10, tu sais, Darkel, Jean-Benoît Dunkel, le mec de R en 10. Il y a par exemple Nelly Furtado en 7, il y a Télévision de Personnalité en 4, et Hot Chip 3ème, Little Annie 2ème et Island Return to the Sea.
Je pense, j'avais le top 5 qui était prêt, hein.
Non, mais c'est pas grave. On peut faire le top 5 cinéma si tu veux, il n'y a pas de problème. Hein, avec un petit numéro 5.
Le top 5. Numéro 5.
C'est Munich de Steven Spielberg.
Numéro 4.
The Devil's Reject de Rob Zombie.
Ah,
numéro
pas mal.
3.
Borat de Larry Charles.
En 3.
Numéro 2.
Kekekshu, la patrouille sauvage de Lu Chion.
Ouf.
Numéro 1.
Les fils de l'homme de Alfonso Cuarón. Avec Clive Owen et puis les autres. Et il y a également le top 10, si j'arrive à tourner à temps la page.
Série télé
Média, ouais, série télé, enfin média en général, quoi. On va dire avec. Numéro 8, Dr. House. Numéro 6, Thomas Gigol, hein, c'est le nouveau Black là, qui fait les interventions chez Deniso dans la grande famille.
Top plus
la grande
5. Famille.
Ah oui,
Véronica Mars.
Véronica Mars en 5, donc. Ouais. Mérité.
Numéro 4.
Deadwood, la série western sur Canal+.
Numéro 3.
Le coup de boule, la finale de la Coupe du Monde.
Ah ouais, c'est n'importe quoi, c'est
classement. Oui.
Mais ils sont habitués. En numéro 1, moi.
Ils sont habitués, hein.
Numéro 2.
Denis Robert, c'est un mec qu'ils aiment bien, de toute façon, hein. C'est un mec qui fait un peu la merde, ex-journaliste de Libé, qui a un petit peu ébruté l'affaire Clearstream, entre autres, hein. Qui a également écrit un bouquin sur le foot, hein, sur ce qui se passe un petit peu au niveau magouille du foot. Et en numéro 1.
Numéro 1.
Ah ouais! Bravo!
Groland.
C'est Groland, chapeau pour eux quand même.
Bon, voilà tout ça dans le numéro de janvier, alors de Technicart. Je croyais que c'était le numéro de décembre, enfin non, je vais être décalé complet quoi.
Bah, au moins on le trouvera en kiosque pendant au moins 3-4 semaines, hein, c'est déjà ça.
Ouais. De la télé à présent, alors là ça va être Noël, ça va être pour les enfants, très gentil, pas de trash, pas de trucs violents, non.
Là je bateau au pire là.
Non, mais c'est vrai en plus, hein, c'est pas des conneries, hein, je t'assure. Hein. Moi je trouve personnellement Noël très déprimant, je suis toujours très mal lors des périodes de Noël, mais enfin bon, il y a beaucoup de gens qui sont à l'aise et tout, alors on va un petit peu œuvrer pour eux avec tout d'abord du bonheur, tout simplement du bonheur sur TPS Ciné Family qui vous propose eh bien un spécial Miyazaki la semaine prochaine.
Ah bravo. Avec
3 films, le 4ème, bah, il est passé ce matin à 9h25 du matin, donc c'est con, hein, c'est Kiki la petite sorcière. Sinon mardi prochain à 20h45 Le Château dans le ciel. Mercredi prochain c'est Le Voyage de Chihiro, toujours à 20h45, et jeudi prochain sur TPS Ciné Family Princesse Mononoke. Bah voilà, c'est pas du cadeau de Noël.
Princesse Mononoke, c'est du gentil.
Ouais, mais c'est à 20h45 alors, quand ouais. Même, tu
alors
vois.
Avis aux petits enfants, il y a les têtes qui giclent.
Voilà, c'est
on vous montre un roman de guerrier.
On vous montre une scène de guerre à l'époque où la guerre était sale, dégueulasse et avait plein de dégâts collatéraux, hein, déjà. Hein, c'est
sinon, pour coller un petit peu à la BD, ça peut être la bonne surprise en fait de la fin de l'année. C'est une espèce de coproduction entre Arte et plusieurs autres chaînes. Et c'est un mélange, c'est une aventure, ça fait penser au départ de toute façon à Corto Maltese, hein, vu qu'il s'agit là d'une aventurière qui est née à Saint-Pétersbourg le 1er avril 1900. Elle va traverser la première partie du siècle en traversant la révolution d'octobre. Ensuite, elle va partir émigrer vers Paris. Ensuite, elle va partir aux États-Unis. Elle va partir ensuite en Afrique, en Amérique du Sud. Et tout ça nous est compté à travers 6 épisodes qui sont mis en scène, on va dire, d'après une idée d'Alain Vider et d'après le dessin de Luc Desportes. Alors, je sais pas si tu connais ces gens-là.
Non.
C'est un trait. Enfin, je sais pas. J'ai pas ramené la photo, enfin c'est un trait qui fait également un petit peu penser à Corto Maltese, tu vois quoi, c'est assez épuré comme ça, enfin bon, mais assez visuel. Donc l'histoire de cette aventurière à travers justement une animation, mais également des images d'archives réelles. Alors c'est là que ça peut être très très intéressant, hein, parce que bon bah on verra ce que ça donne. C'est commenté par Pierre Arditi, Sandrine Bonner. Et ça s'appelle donc L'Aventurière, hein, donc 6 épisodes, les deux premiers seront diffusés lundi prochain à 20h40 sur France 5 et c'est réalisé par Jean-Charles Guidicelli. Sinon, tu sais que le 1er janvier, il y a un événement majeur qui va se produire à la télévision.
Ah oui, le concert de Vienne.
Laquelle, la télévision française ?
À la télévision française.
Un événement majeur en janvier ?
Ah ouais, ça va
la être publicité, la publicité des grandes surfaces.
Le retour de la
Starac. Exactement. Top gagnant avec à 0h18. Quand vous
la
allez
première
faire,
coupure
quand
pub.
Vous allez péter les 12 coups de minuit, eh bien 0h18 exactement, eh bien il y aura la première pub pour Super U, Daniel Prévost, ouais, la grande distribution.
Ah, c'est Daniel Prévost qui fera le truc, d'accord.
Bah, ouais, ce sera la première diffusée si tu veux quoi. Bah, Prévost, lui, il est pour Super U quoi. Depuis le temps, t'écoutes pas la radio toi.
Hein. Non, pas non. Les mêmes radios que toi.
Bah non,
hein,
bah
je suis désolé.
Bah voilà. Les mousquetaires de la distribution. Voilà, pour la petite info. Sinon, des spéciales Noël, il y en a à la TOC, en veux-tu, en voilà, je vous en ai sélectionné quelques. Déjà, bah ouais, alors là, c'est con, j'ai oublié de t'en parler, alors là je suis impardonnable, quoi. Enfin on va faire sans générique. Ou alors on va voir si t'es assez rapide.
Oula,
si t'es assez rapide pour trouver. Mais celui-là, comme celui-là t'as l'habitude de toute façon quoi. Celui-là, en principe. Il n'y a pas trop de problème, quoi. Tu le trouves assez rapidement. C'est Doctor Who qui va nous faire un spécial Noël. Alors, les Doctor
Who... Non, il le diffuse.
Les Doctor Who, généralement, sont diffusés le lundi soir sur France 4 à partir de 20h40. Alors, deux premiers épisodes normaux, on va dire, hein, avec Christopher Eccleston dans le rôle de Doctor Who, hein, le premier, le grand méchant loup, puis le deuxième à la croisée des chemins. Où les Daleks lancent leur flotte à l'assaut de la Terre.
Ah, mais toi, ça, c'est les derniers épisodes de la saison 1.
Ouais, attention, ça c'est les derniers épisodes. Et franchement, je vous conseille l'avant-dernier pour les fans de télé. C'est à hurler de rire, c'est énorme.
Et à 22h15, donc, eh bien, cet épisode spécial Noël où justement le Docteur Who a des problèmes et va être obligé de se régénérer, de changer de face. Et c'est donc l'introduction d'une nouvelle acteur qui incarne après Christopher Eccleston le Docteur Who, à savoir David Tennant. Mais toujours avec Billy Piper, donc on est content. Il y a pas de problème. S'il y a Billy Piper, on est content. Alors, c'est initié par Russell T. Davis, quoi, qui a essayé de régénérer un petit peu la série, qui a insufflé un petit peu un petit truc nouveau, et puis ça marche assez bien.
Non,
quoi.
Non, ça date de la toute première série, ouais. Ça date de 63, où l'acteur voulait pas rester. Donc ils ont trouvé ce truc idiot, c'est d'accord, ben le docteur se régénère et il change complètement de visage.
Ben voilà, ouais.
Ça coûte rien à faire et c'est hurler de rire. Alors par contre, ce que je veux savoir, et peut-être que tu peux me le dire, c'est est-ce qu'il y a le fameux épisode interactif qu'ils ont fait sur la BBC ?
Ça va être diffusé prochainement, à savoir à partir de janvier, il y aura tous les épisodes inédits avec le
nouveau. Oui, mais il y avait un épisode interactif à la suite de l'invasion de Noël. Où en fait le docteur est trop occupé à faire une certaine chose, donc il prend son tournevis sonic, il se tourne vers le téléspectateur et il dit eh ben prends ta télécommande parce que je te donne les pouvoirs du tournevis sonic. Et en fait ça se jouait entre deux chaînes, donc les gens ils avaient un jeu dont vous êtes le héros, ils vous zappaient, c'était complètement délirant, c'est ce qu'ils ont fait. Donc dommage, on l'aura pas. C'est un peu dommage là pour le
voilà,
coup.
En tout cas épisode spécial Noël de Doctor Who, c'est lundi à 20h40 sur France 4. Sinon il y a également demain soir Baywatch, épisode spécial Noël. Oh. Noël en Californie.
Ça veut dire qu'ils ont le bikini à fourrure rouge.
C'était le 100e de la série en fait, un épisode en deux parties en fait de la 5e saison avec Pamela Anderson. Ah, c'est l'actualité. Borat a usé 4 cassettes VHS de cet épisode de Baywatch. Tu ne savais pas. Il y a David Charvet également dans.
Non, vous pouvez pas.
Si. C'est donc en plus c'était le 100e de la série. Il faut savoir que dans le budget de chaque épisode, hein, comme David Hasselhoff était producteur exécutif, vous avez même la musique, quoi, tu vois, le style pour ramasser un max de pognon, producteur exécutif, des fois réalisateur, acteur principal, des fois mec qui fait les scénarios, enfin qui aide à faire les scénarios,
oui,
histoire
scénario,
de ramasser un max de pognon. Ouais. Mais en fait, il y a une partie du pognon qui était dévolue à les bonnes œuvres, quoi, tu vois. Et là, pour cet épisode, les bénéfices qui ont été générés par cet épisode ont été reversés aux enfants déshérités de Malibu. C'est pas joli, ça, c'est pas beau. En tout cas, cet épisode, ce double épisode sera diffusé demain soir à 20h50 sur NRJ 12, 20h50 donc pour Alerte à Malibu Noël en Californie. Sinon, dans le plus classique, c'est les chaînes de France Télé qui font dans le britannique, hein, le britannique de qualité, avec tout d'abord, demain, on peut commencer par France 3 à 13h25, un inspecteur Barnaby qui s'appelle Le Fantôme de Noël.
Ah ouais. Ah ouais.
Assez récente, 2003. Suivi sur France 2 du Hercule Poirot, le Nord Noël d'Hercule Poirot, qui s'appelle en version originale Christmas Pudding.
Deux mots d'unit en cadeau, ça c'est pas mal.
Ouais,
ça.
C'est pas mal à la suite, hein, comme ça, c'est demain après-midi, donc 13h25 pour Barnaby sur France 3 et 15h20 pour le Hercule Poirot sur France 2 avec David Suchet, bien entendu. Hein. C'est un des les premiers, c'est pas les premiers, mais enfin 94, je veux dire, c'est les vieux, hein, c'est la deuxième saison, il me semble, hein, des Hercule Poirot. Donc avec David Suchet, d'ailleurs ils sont pas mal du tout. Sinon qu'est-ce qu'il y a encore? Ah bah c'est tout, hein, en ce qui concerne les séries, puisque Noël c'est demain déjà, hein, tu vois, donc il faut speeder un petit peu. Sinon là t'as vu, il me reste 3 pages, une petite sélection de films de Noël avec des animaux dedans.
Poupies.
En plus, ils sont diffusés l'après-midi, hein, parce que bon bah le soir, hein, les enfants, il faut les mettre au lit. Donc c'est l'après-midi qu'on va pouvoir regarder des films avec des animaux dedans, et puis qui sont là parce que bon bah des fois on a besoin de regarder la télé, on a besoin de regarder des films, de changer les idées et tout, parce que Noël c'est tellement déprimant et tout, quoi.
Ouais, alors Thomas, bon... on a besoin de se changer les idées là.
Alors demain il y a pas grand chose, bah je vous avais parlé, hein, de toute façon demain quoi, c'est plus les séries. Mais par contre lundi, toute une flopée de films intéressants et divers, Danse avec les loups par exemple de Kevin Costner.
Il
y a des loups.
Ouais, ah il meurt, mais bon.
On va changer les idées là, c'est clair.
Loups,
hein.
Le cheval et le loup meurent, donc c'est cool.
Ouais, ouais. C'est sur France 2 à 15h35, lundi prochain. Sinon, sur TPS Ciné Family, Le Chat Botté, c'est une Jap animation de 69 de Kimiko Yabuki.
Oui.
À 16h50, donc lundi prochain sur TPS Ciné Family.
Avec Takahata qui a participé dedans, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Ouais, faudrait que je consulte mes
69, hein, 69, c'est hyper vieux. Hein.
Ah oui, justement.
Il est vieux lui, hein.
Ensuite, il y a également lundi prochain Batman, chauve-souris, quoi, sur Syfy à 17h45.
Oui, en plus, ça se passe pendant Noël. En plus.
Bah ouais, tout à fait. Chien de flic 2. Alors, je vous en ai déjà parlé du Chien de flic 1. Hein, c'est l'histoire de James Belushi qui est flic, et puis il y a un berger allemand avec lui. Puis donc, ok. Hein,
Si.
Et là, un chien de flic 2, là, il est avec une coéquipière qui aide également un chien. Alors, James Belushi, il a le chien loup, et Christine Tucci, elle a le Doberman. C'est ce chien de flic 2. C'est sur TF6, lundi prochain, 15h20.
So brave is Corporal Rusty. Oh, he is just a boy.
Just a boy.
How true is Private Rintintin. They are the Army's pride and joy.
Bon, c'est pas vraiment un chien policier, mais bon.
C'est un chien loup. Mardi, encore des chiens avec un chien en or sur France 2 à 15h20 avec Dean Cain.
Ah, Superman
Dean Cain, donc, et Laurie Holden dans un téléfilm qui date de l'année dernière, hein, 2005, donc qui sera diffusé mardi prochain sur France 2 à 15h20.
Laurie Holden, t'as pas dit qui c'était?
Non, pourquoi?
Marita Covarrubias dans X-Files.
Ah bah
et
oui,
elle
oui,
jouait
oui.
dans Silent Hill aussi.
Oui. Mercredi, encore des chiens, mais là c'est celui qu'on a déjà vu, mais qui repasse, qui est pas mal, mais enfin qui est de temps en temps un peu gros quand même. C'est comme Chien et Chat, hein, avec Jeff Goldblum, l'histoire des chiens contre les chats. Oui. Tu te rappelles le
avec
truc
avec des vrais animaux et
avec tout. Des vrais animaux. Bien sûr, c'est sur France 2 mercredi prochain à 15h30. Sinon, vous pouvez vous faire Dinotopia. Alors Dinotopia, il y a des dinosaures dedans. Et c'est l'occasion de voir Lisa Zane, entre autres, David Hewlett et Michael Scofield, Wentworth Miller qui joue également dans Dinotopia. Donc alors c'est soit mardi sur W9 à partir de 13h20, mais il n'y a que les deux premiers épisodes de cette mini-série, ou alors vous le tapez mercredi prochain sur M6 à partir de 13h55, c'est jusqu'à 18h, là vous en avez pour la totale, il n'y a pas de problème. Mercredi prochain, donc, il y a également Comme Chien et Chat sur France 2, ça je l'ai déjà dit, mais il y a également sur Canal+, à partir de 15h40, Kirikou et les Bêtes Sauvages. suivi à 16h50 de Madagascar, qui est également diffusé demain soir sur Canal+. Le film, on va dire, un petit peu full frontal, quoi, par rapport à la programmation de TF1, de France 2 et de M6, programmation spéciale Noël, bien entendu.
Désolé.
C'est marrant, ça part toujours, ça part toujours en vrille chaque fois que du sport fait une chronique animalière.
Non, mais en effet, demain soir, encore des animaux, hein, alors, c'est pas moi qui fais les programmes, mon gars. Avec du full frontal, là, on a abandonné le film blockbuster du dimanche soir. On a abandonné la série haut de gamme qui se fout de la gueule du monde, mais on la regarde quand même parce qu'on aime bien se foutre de la gueule de la série. Du classique, du bien classique, du haut de gamme quand même, hein. C'est Noël. Faut faire un beau cadeau aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. TF1 vous propose demain soir à 20h50 l'Odyssée sibérienne. Un documentaire de Nicolas Vanier dans lequel il retrace son aventure. Il y a des bêtes, il y a les chiens de traîneau.
Vous avez vu comme c'est à la mode l'Antarctique 8 000, en ce moment.
8 000 morts.
Oui,
c'est
à cause des pingouins.
C'est pas l'Antarctique, c'est la Sibérie. Hein,
c'est la Sibérie.
Ils n'arrêtent pas de faire des.
C'est des pingouins là-bas. Ouais, des manchots, oui. C'est de la pub pour Linux.
Mais depuis la marche d'Empereur, Happy Feet et tout, là, en ce moment, il y a Thalassa. Ils ont fait une série de spéciales autour des conditions extrêmes en Sibérie.
Attends, tu m'excuses, mais tu feras un documentaire toi sur les fenêtres? Parce que Windows avec leur Vista, ils intéressent personne, alors que Linux, un pingouin, c'est gentil, c'est mignon.
Voilà, donc ça, c'est sur
TF1. Et ça boit de la bière.
Merci.
Ça c'est sur TF1, donc en concurrence avec sur France 2, eh bien la comédie musicale de Louis Chédid avec son fiston dedans et Vanessa Paradis et San Severino et Benabar et Albin de la Sivonne qui s'appelle Le Soldat Rose. Demain soir sur France 2, donc à 20h50 également. Tandis que sur M6, on pourra mater ce qui pourrait être le plus intéressant de la soirée. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu,
Carnosaur 4.
C'est un film d'animation danois qui date de l'an 2000 et qui s'appelle Gloops, je suis un poisson.
Ah ouais.
Suivi à 22h15 de Picsou, le trésor de la lampe perdue.
La lampe perdue, ouais. Voilà. Il est pas mal celui-là.
Ouais. Vaudra peut-être mieux d'ailleurs que de se taper les bêtisiers que nous ont concoctés respectivement TF1 et France 2 et qui seront diffusés donc après les premières parties. 22h35 pour TF1, le bêtisier de Noël présenté par Nathalie Vincent.
Faudrait qu'il y ait des jingles avec les rires enregistrés.
Et sur France 2 à 22h15, c'est votre bêtisier.
Sauf que maintenant ça s'appelle plus le bêtisier, ça s'appelle les 100 plus grands bêtisiers.
Non,
c'est parce que
non, ça c'est les plus grands, c'est pour les jours de la semaine.
C'est les plans d'Arthur, ouais.
Canal+, donc, c'est Madagascar demain soir. Et il y a également Fever au Far West diffusé demain soir à 20h45 sur NT1. Mercredi prochain, c'est pas fini, hein, j'ai pas fini ma semaine, hein, de toute façon. Mercredi prochain, du très bien. Alors là, vraiment, mercredi prochain, top classe, quand même, avec Léo, le roi de la jungle, sur TPS Ciné Family, à 16h10. Alors ça, c'est vraiment très très bien. Je sais pas si tu l'as déjà vu, celui-là, quoi.
C'est le Tezuka?
Ouais, c'est excellent.
En fait, c'est la reprise, oui.
Magnifique. Hein.
On a essayé de le voir en DVD, mais le DVD avait un problème, donc on a prêté à un copain qui nous a fait un rip. Mais on avait quand même acheté le DVD original, donc excusez-nous, on a fait un rip, mais c'est pour
ensemble
des films.
Non, t'as le droit.
Ah, mais sinon, je le prêterai. Hein,
d'accord.
C'est suivi. C'est pas suivi, non, c'est sur une autre chaîne TPS Cinétoile à 19h40 quand même. Donc c'est l'incroyable voyage qui s'appelait également l'incroyable Odyssée, où c'est une histoire vraie qui a été c'est un film Disney, hein, donc ça a été scénarisé, mis en scène et tout, quoi. L'histoire de deux chiens et d'un chat qui font un voyage à travers tout le Canada pour retrouver leur maître et tout.
C'est un buddy movies, voilà.
Ouais, mais ça date de 63, quoi. C'est absolument magnifique, hein, c'est génial. Moi, j'ai vu ça quand j'étais petit, j'étais fasciné, je t'assure, c'est génial. C'est à 19h40 mercredi prochain sur TPS Cinétoile et c'est suivi par le meilleur film d'espionnage
du monde. Imaginez quand même que ça, du sport va essayer de le faire voir à ses gamins et ses gamins vont faire beau.
C'est mieux.
Non, j'ai pas TPS. Suivi à 21h du meilleur film d'espionnage du monde, L'espion aux pattes de velours. Alors là, c'est génial.
Ouais.
Filmé un petit peu par la même bande de mecs qui avait fait l'incroyable Odyssée, 2 ans plus tard, en 65, hein, avec là des personnages réels, mais surtout hein, le le magnifique chat quoi, qui joue le rôle principal. Hein,
c'est
magnifique, excellent. Et alors, je termine par le meilleur de mercredi prochain.
Ah ouais.
Un film qui s'appelle Cody et les petits champions sur TF6 avec quand même Lorenzo Lamas et Gary Buzet. Alors, c'est à 15h10 et en fait c'est l'histoire d'un chimpanzé surdoué capable de piloter une moto et qui est l'unique chance de sauver un circuit de motocross qui est utilisé par des enfants. Ça s'appelle Cody et les petits champions, c'est mercredi prochain sur TF6 à partir de 15h10. Sinon jeudi prochain encore des animaux.
Sternation générale.
Encore des animaux avec la légende de Stormy. Celui-là, ils nous l'ont déjà passé, nous le repasse, je suis sûr là. C'est sur France 2 à 15h25 avec Gabriel Byrne et Joanna Wiley, hein, qui a un temps été mariée avec Val Kilmer, et l'histoire d'une nana qui rêve d'être championne d'équitation. Sinon, il y a également les deux Babes qui sont au programme jeudi prochain sur M6. Il commence par Babe, le cochon devenu berger, c'est-à-dire le premier, hein, celui de Chris Newdon de 95 à 17h10.
Non, de George Miller.
Non. Le George Miller, c'est le suivant, celui qui a été fait en 98 et qui sera diffusé vendredi prochain sur M6. Babe, le cochon dans la ville, donc celui de George Miller qui sera diffusé vendredi prochain à 17h05. Et je termine avec deux films de légende, on va dire, hein, deux légendes qui seront diffusées vendredi prochain également, vendredi après-midi et vendredi soir sur TF6, qui nous fait un truc légende à fond les manettes. Tout d'abord, la légende de Merlin dans la version anglaise de Steve Barron de 98.
Ah, Baron, très bien, avec Sam Neill.
Avec Sam Neill, Isabella Rossellini, Miranda Richardson, Martin Short et
Linda Bonham Carter.
Ouais, enfin tu meurs quoi. C'est pas mal, c'est vraiment bien foutu. C'est à partir de 13h40, donc vendredi prochain sur TFC jusqu'à 16h30. Hein, donc c'est en deux parties. En début de soirée, ils nous le repassent, ils l'ont passé il y a pas si longtemps que ça. Je t'en ai parlé d'ailleurs. C'est L'Anneau Sacré de Willy Edel, c'est une coproduction britannico-américaine. Germanique, ce que tu veux, de Uli Edel de 2004. C'est la nouvelle version de la fameuse légende des Nibelungen. L'anneau sacré avec Benno Fürmann, Christian Haloken.
La tétralogie
là,
de la
que, Ah ouais. Et également Julian Sands, Max von Sydow. Donc c'est vendredi prochain. C'est en deux parties, c'est vachement long, hein, mais c'est vraiment pas mal. Bon, pour tout vous dire, c'est vachement simplifié au niveau de l'histoire des Nibelungen, parce que c'est quand même une histoire un peu compliquée, on va dire, hein. Il y a plein de tenants et d'aboutissants, alors que là ils s'en tiennent vraiment à l'histoire de base, l'histoire de Siegfried, mais ça reste quand même vachement bien foutu.
Ouais, qui est battu par le chevalier du dragon Asgard. Non, c'est pas ça.
Avec alors là, si on doit commencer
non,
à
c'est
résumer.
Parce qu'il y a le chevalier Pégase qui arrive et puis il y a le dragon qui bat Siegfried parce qu'il a vu avec son vieux maître en sacrifiant en Chine. Non, c'est pas ça.
Je crois que j'ai coupé Thomas.
Il a amalgamé comme c'est pas possible. Il y a pas eu un manga qui a été fait sur les Nibelungen.
Mais si, j'ai raconté Chevalier Zodiac en fait.
Ok, d'accord.
Non, mais surtout, il y a effectivement eu une adaptation en manga par Leiji Matsumoto.
Non.
Qui est le créateur d'Albator, voilà. Mais c'est une adaptation là aussi bien délirante. Par contre, il suit de beaucoup plus près le livret. Zou. Eh ben on vous souhaite de bonnes fêtes puisque nous
bonne fête, bon joyeux Noël.
Voilà, voilà, du sport lui il va prendre la suite, je sais pas s'il est là la semaine prochaine. Nous on se retrouve l'année prochaine. Hein ? Non, t'es pas là. Non, t'es pas là. Bon bah tant mieux. Tant mieux. Voilà, on va se faire un peu plaisir. Hein. Donc on se donne rendez-vous le samedi 6 janvier 2007. Une superbe année qui s'annonce. Oula, très rigolote. Donc le 6 c'est le numéro 97, le 13 c'est le numéro 98, et le 20 c'est le numéro 99, et le 27, on est en Angoulême, voilà.
centième,
on s'émerdera, on verra, hein. Je pense que ça va être du pré-enregistré, puis enfin bon, on verra.
Oui.
Donc on s'est fait plaisir un peu à l'antenne, j'espère que vous allez beaucoup faire plaisir et vous allez découvrir plein de choses pour les fêtes. Donc voilà, nous souhaitons un joyeux Noël pour ceux qui sont croyants ou non, je sais pas, mais ceux qui au moins... décide un peu de se dire ouais allez c'est tranquille, c'est une fête consumériste, faut y aller, allons-y.
Et pour ceux qui ont raté le début de l'émission,
avant de souhaiter une bonne année, et ben parce que ça se fait pas avant, Thomas. Mais dis-moi, pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission, qu'est-ce qu'ils ont manqué ?
Eh ben déjà, ils ont heureusement qu'ils ont pu suivre le début d'émission, puisque cette fois, on a pensé à l'enregistrement sur le disque. On a fêté Noël entre nous, il y a eu deux artbooks chinois offerts, du coffret Buster Keaton en DVD, un bouquin sur Jack Kirby et un DVD des collectifs japonais, deux noms écorchés par Xavier aujourd'hui, Arleston et Pissavi Verno, deux top 5 concernant le cinéma et les médias, 2006 par Technic Art et une sélection de films avec des chiens pour Noël et un film avec un chimpanzé surdoué qui fait la moto.
Ouais, super, c'est trop génial la magie de Noël. 13h14 minutes et 20 secondes sur la poubelle des radios, du sport revient tranquillement, doucement, gentiment, et nous tassons nos feuilles. Et les papiers d'emballage. Allez, hop, ciao à vous. La suite des programmes sur Radio FMR, 15h Zarma Farai, 17h Big Bang, 18h Vie d'Ordure, 19h Happy Hour, 20h La Cité Expérience et 21h30 9 Love. De suite, ça c'est du sport.